forever. NBA Now and Forever.
Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, votre honorable serviteur comme d'habitude. Donc pour ce nouvel épisode, un troisième épisode de cette saison numéro 3 pour le coup. Et je vais dès à présent donc vous faire la présentation de notre cast de la semaine. Donc c'est sa première sur Forever. Et avec lui, bien sûr, rien n'est laissé au hasard, contrairement à ce que peut laisser penser l'album Dice Game de Gulti Simpson et Apollo Brown. Pour ceux qui connaissent la référence, l'homme manie l'exercice comme s'il était sur un speedrun. D'ailleurs, on entend d'ailleurs les sirènes derrière lui, comme s'il était chez nous. Je vous présente Paul. Salut Paul.
Salut Vlad. Bonne introduction. J'avoue que je suis un très grand fan d'Apollo Brown et c'est vrai que les jeux vidéo, c'est un peu une de mes passions. Donc c'est vrai que le speedrun, c'est très bon. Parfait.
Sur Shenmue, d'ailleurs, pour les grands fans de Dreamcast, et qui est la meilleure console de tous les temps. Ensuite, nous avons donc le fan numéro 1 du fan club de Jérémy Soren, toujours à l'heure mexicaine. Donc pour lui, c'est tous les jours le Taco Tuesday. Salut Quentin.
Bonjour.
Bonjour à toi. Et pour terminer, car nous avons un absent, Lucas était censé être avec nous, mais il a une petite contrainte, donc il ne sera pas avec nous cette semaine, donc je lui réserverai sa petite introduction pour la prochaine. Donc pour terminer, on a aussi le fan numéro 1 de Chris Middleton, qui, je rappelle, est fort au basketball, et qui ne laisse pas tenter au jeu des insultes pour le mois à venir, malgré qu'il regarde des infâmes Bucks en ce moment. Salut Rafik.
Salut. En effet, Chris Middleton est très fort au basketball, il faut le rappeler.
Voilà, tout à fait. Et contrairement, lui au moins ne représente pas le niveau des Bucks. Écoutez messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque de suite les actualités. Toujours le même programme, des actualités, un débat de la semaine, le starting five avec les coupeurs de citron et la dernière séance, très très chère, à notre Eddie Mitchell national. Les actualités en bref, d'ailleurs c'est un petit peu en lien avec ce que disait Samuel la semaine dernière sur l'épisode avec Eddie David. Les joueurs de la semaine, donc on a à l'Est DeMar DeRozan avec une moyenne de 29,8 points, 5,5 rebonds et 6,3 passes pour un bilan de 3-1 pour Chicago, c'est à noter quand même au vu de leur saison qui est plus que moyenne pour pas dire médiocre. Et à l'ouest, donc comme le disait Samuel, c'est Luka Doncic qui est une nouvelle fois joueur de la semaine avec une moyenne par contre hallucinante, 37,7 points, 10,3 rebonds, 10,7 passes avec un bilan de 2 victoires pour une défaite. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter messieurs sur ces joueurs de la semaine?
Je vais laisser la main, mais enfin moi je dirais que c'est vrai que Doncic, même si Luka n'est pas là, c'est exceptionnel, franchement. Après, le problème, c'est que le support cast n'est pas au rendez-vous, mais franchement, faire ce qu'il fait, à la vitesse qu'il fait, et puis se rendre compte qu'à la fin, il met autant de pions, c'est quand même exceptionnel.
Mais d'ailleurs, ouais, tu parles à la rapidité avec elle. C'est vrai qu'en regardant ces derniers temps Luka Doncic jouer, je trouve qu'il a énormément gagné en vivacité. Je le trouve de plus en plus fit, notamment sur ses appuis, avec notamment de gros changements de rythme qui sont de plus en plus impressionnants.
Mais c'est ça, tu sais, j'en parlais, je faisais un contrat avec un ancien la semaine dernière, et je lui disais, ce qui est ouf, c'est que tu as l'impression que tout est au ralenti, mais en fait, c'est sur les derniers appuis qu'il envoie la gouache. En fait, j'ai l'impression que c'est la gestion de l'effort en lui-même, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, pourquoi je vais pas me donner à 100%, je vais être efficace qu'au bon moment, quand il faut accélérer, quand il faut mettre le lay-up, quand il faut faire la feinte. Et c'est vraiment incroyable de voir un gars, et bon, on en parlait la dernière fois sur Tim Duncan, se dire, mais à la fin de sa carrière, il faudra qu'il nous donne des anecdotes sur le fait de se dire, mais comment il fait pour changer les vitesses comme ça, et puis de se dire, bon, là, je suis à 40%, là, je suis à 60%, là, je suis à 80%, c'est quand même incroyable.
Ah, est-ce qu'il n'y a pas un petit effet aussi Kyrie Irving qui joue dans tout ça?
Je pense aussi, parce que c'est vrai que pour le coup, là, ça a l'air plutôt de bien fonctionner ensemble. Mais après, il faudra voir, comme je l'ai dit en commençant, j'ai l'impression que le support cast n'est pas forcément au rendez-vous.
Non, bien sûr. Toi, Quentin, tu as quelque chose à rajouter sur les joueurs de la semaine, notamment avec une équipe qui t'est très chère à l'Ouest?
Non, bah, Luca, voilà, c'est un peu la même depuis le début de saison, de toute façon. Donc, je suis même pas. Je suis même pas étonné, tu vois, de le voir afficher de telle moyenne. Parce que bon, c'est proche de ce qu'il fait cette saison. Là où je suis un peu plus étonné, tu sais, c'est sur un DeMar DeRozan qui a quand même fait une grosse semaine.
Ouais.
Avec des Bulls qui ont gagné des matchs, même si c'était pas les équipes du siècle. Hein, mais bon, tu gagnes quand même contre les Warriors, contre les Kings, si je dis pas de bêtises.
Mm-hmm. Et ils perdent contre les Clippers, mais ils tiennent quand même une bonne grosse partie du match. Hein.
Ouais, donc voilà, ça fait plaisir de voir un petit DeMar DeRozan à ce niveau-là. j'ai pas fait exprès en plus.
Mais c'est vrai que bon, ça fait du bien, c'est le petit bol d'air frais quand même pour Chicago, hein, qui est quand même dans une situation complexe, hein, depuis maintenant plusieurs saisons. Donc bon, on va dire que s'il y en a un qui performe, en effet, c'est bien DeMar DeRozan. Et ça reste toujours un joueur très correct et très agréable à voir jouer. Donc, c'est amplement mérité pour lui pour cette semaine. Deuxième sujet, deuxième actualité. C'est vrai qu'on a connu là sur cette dernière semaine une bonne avalanche, hein, une bonne hécatombe en termes de blessures. On a Karl-Anthony Towns donc, qui s'est fait le ménisque. Bénédicte Mathurin qui s'est fait opérer de l'épaule. Sadiq Bey qui se fait les croisés. Alperen Şengün. Qui s'est retrouvé avec la jambe en vrac. Bon, plus de peur que de mal. C'est juste une grosse entorse qu'il a notamment à la cheville. Alors, on va dire qu'il y a deux questions en une. Déjà, est-ce que ça va remettre, je pense notamment pour le cas Karl-Anthony Towns et Bénédicte Mathurin, est-ce que ça remet en cause à la fois les dynamiques ainsi que les potentiels classements finaux de fin de saison de leurs équipes respectives, hein, donc les Wolves ainsi que les Pacers? Et concernant les équipes, on va dire, qui sont un peu plus bas au classement, est-ce qu'on commence pas peut-être à activer plus ou moins, je dis ça avec des pincettes, mais peut-être un peu le mode tank ou à l'année prochaine?
Bah, déjà, on sait qu'il y a deux équipes qui sont éliminées des playoffs, qui sont Détroit et San Antonio, il me semble. Mm-hmm. Donc, déjà, je pense que ces équipes-là vont commencer peut-être vraiment à tanker. Comme... En vrai, je pense que ces deux équipes ne font même pas exprès de tanker. Je pense peut-être San Antonio tank un petit peu, mais Détroit, c'est trop faible.
Ouais.
Ensuite, pour Minnesota, je ne suis pas très inquiet. Pourquoi ? Parce que, en fait, Anthony Edwards, je pense que c'est un joueur aussi qui peut vraiment être très, très, très fort quand il est vraiment le seul leader offensif. Franchement, il est devenu le leader offensif incontesté de Minnesota. Mmh. Mais là, vraiment, il va avoir... Vraiment, on sent qu'il va avoir vraiment beaucoup plus de liberté. Et quand il a beaucoup de liberté, il est capable de carton à 45 points, peut aller chercher même... Franchement, pour moi, c'est un joueur qui peut aller chercher les 60 points et avec des pourcentages corrects. Et donc voilà, pas de... Après, j'avoue que quand même, Kat avait fait énormément de progrès sur le côté défense, le côté agressivité, le côté maturité. On lui reprochait un peu d'être un peu nonchalant, de ne pas trop se donner en défense, ou des fois, ouais, exactement, passif. En fait, passif, ça regroupe tout ce qu'on lui reprochait. Et ensuite, bah, pour Indiana, franchement, elle fait un peu mal, celle-là. Parce que Mathurin, il apporte pas mal de choses du banc, avec notamment notre ami TJ McConnell, qui a le dernier match, qui a sorti un très bon match, hein, le dernier match, il me semble. J'ai pas les stats en tête, mais il me semble qu'il a sorti un... Très belle ligne de stats. Ouais, celle-là fait mal pour Indiana.
Bah, c'est vrai que celui-ci fait bien mal. C'est vrai que c'est, concernant le cas Mathurin, c'est vraiment un élément essentiel, hein, en sortie de banc pour les Pacers. Donc ça risque en effet de peut-être remettre. D'ailleurs, TJ McConnell, c'est 17 points en 27 minutes. Hein,
Yep. Oh, normal, lui, il met un point toutes les minutes.
Tout va bien.
TJ McConnell, quoi.
Voilà, c'est TJ McConnell, c'est toujours très propre. Mais je pense que ça peut. Alors, en plus, ils sont septièmes, donc ils sont vraiment, on va dire, un peu en ballottage à l'Est. Donc, y a Miami qui, même si là ils sont sur une série de défaites, hein, on va pas commencer à crier au Forever Curse, hein, mais il y a quand même des équipes qui sont plus ou moins en embuscade et y a Miami et Chicago qui, voilà, avec la semaine qu'ils ont fait, vont quand même essayer de se relancer, même s'il y a encore pas mal de matchs d'écart, hein, il y a 5 matchs d'écart avec. 5 victoires d'écart avec Indiana, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver sur un malentendu. Donc, c'est un peu compliqué. Paul, Quentin, vous, quels sont un peu vos ressentis sur tout ça?
Je dirais que pour Mathurin, c'est vrai que moi je pose souvent la question. En plus, je pense souvent à Damas quand je regarde les Pacers. Mais c'est vrai que mais je me dis à chaque fois où est Mathurin. C'est vrai que la dernière fois il a pas joué beaucoup. Je pense qu'il était déjà handicapé. Mais c'est vrai que comme tu disais, il apporte beaucoup côté offensivement. Donc c'est vrai que pour le coup, ils sont quand même là sur certains coups d'arrêt. Donc, ça fait quelques matchs qui sont un peu à voile et à moteur. Donc, comme tu dis. Le but, c'est d'essayer de se remettre en ordre de marche et essayer de trouver des solutions pour pas glisser au niveau du classement. Mais c'est vrai que je pense que ça va rendre la tâche plus difficile pour les Pacers. Et pour les autres, ça va être aussi compliqué. Mais je pense que c'est vraiment plus pour les Pacers que ça va être compliqué. Parce que, comme l'a dit Rafik, Minnesota, je pense qu'ils ont toujours trouvé des solutions, même quand il y a eu des blessés, même en début de saison, même là, ces derniers temps, ils arrivent toujours à donner un effort suffisant pour arracher des victoires. Donc, je pense que pour eux, il y a déjà un truc qui tourne assez bien pour gérer la difficulté.
Mmh. Quentin ?
Moi, niveau blessure, je pensais plus aux Rockets, que ça va peut-être un peu plus embêter. Vu qu'ils étaient sur une bonne dynamique, là, ils avaient retrouvé une espèce de petite dynamique avec un énorme Sengun, d'ailleurs.
Ouais.
Et là, quand tu regardes le classement, tu vois, ils s'étaient un peu rapprochés des Warriors qui connaissent des hauts et des bas cette saison. Ils sont 11e, là, les Rockets. Maintenant, il y a 5 victoires d'écart avec les Warriors, mais il y avait un espoir. Ouais, mais t'avais un espoir, tu vois, avec Sengun qui commençait à balancer du 45 points, des triples doubles.
Notamment sur Wemby, hein. notamment.
Mais avec cette blessure, pour moi les Rockets, je pense que les derniers espoirs vont s'envoler. Puis après, niveau Pacers, tout ça, les Pacers, ça va rester au moins dans le play-in, ça. Pas d'inquiétude, j'ai envie de dire, vu le gap qu'il y a entre eux et juste les dixièmes, hein, qui sont les Hawks.
Mais ne serait-ce pas une bonne nouvelle? Ne serait-ce pas une bonne nouvelle de voir Jalen Green ne pas aller en playoff encore?
Bah bien sûr.
Bah oui, c'est franchement, c'est. Moi je l'aime bien Sengun, hein, c'est un très bon joueur, mais moi j'ai pas envie de voir le Paco Rabanne aller en playoff.
Moi j'ai pas envie de voir le quatuor Fred VanVleet, Jalen Green, Dylan Brooks, Jabari Smith. Surtout Jabari Smith. Ah j'ai pas envie de les voir eux.
Le mec qui note les réactions de Wembanyama.
Aïe, aïe, aïe. Exactement. C'est dur. Alors bon, on verra bien en effet ce que ça va donner tout ça pour la suite. Mais en tout cas, ça risque d'avoir en effet un certain impact. D'ailleurs, en parlant d'impact, on a pour notre troisième actu le Oklahoma City Thunder. Hein, qui, on rappelle, hein, depuis la saison dernière avec Rafik, hein, ne font pas exprès de gagner, se retrouve premier à l'Ouest. Est-ce que ce ne serait pas la première fois depuis 2016 qu'ils se retrouvent premier à l'Ouest?
Mais en 2016, ils n'y étaient pas.
Ils n'étaient pas premiers, ils n'avaient pas été premiers à un moment?
Ah, peut-être un moment, mais
ouais, oui, je dis bien en fin de saison. Non, pas forcément en fin de saison. Non, je te dis une bêtise. Non, ce serait plutôt même 2014, du coup. Parce que non, c'était les Warriors en 2016, donc ça remonte peut-être même à 2014.
les années qu'on est en train de citer là, parce que j'entends 2014-2016, on parle de la dernière fois quand ils étaient en playoff ou de la date de naissance des filles que Holmgren ou Guidé peuvent liker.
Ah, purée.
Bah, un peu des deux.
Ouais,
Rafik, il n'en vaut pas une. Hein. C'est vraiment le sniper.
Je te jure. Donc, ouais, donc ça se trouve, ouais, en fait, ouais, Oklahoma est premier du classement et ça doit faire 10 ans qu'ils n'étaient pas premiers, qu'ils n'avaient pas été premiers au classement. Non,
mais c'est ouf.
Non,
c'est ouf. Hein. C'est un travail qui porte ses fruits. Il y a une bonne draft. En fait, en vrai, Oklahoma, ils n'ont pas eu, à part Holmgren, ils n'ont pas eu de. À tête, Jalen Williams aussi. C'est quoi, Jalen Williams? C'est un troisième tour, un troisième choix.
Je sais plus exactement sa place. Ouais.
Mais en vrai, Oklahoma, ça draft bien son top pick. En vrai, hein. Enfin, quand j'ai top pick, genre top 2. Et franchement, ils ont très bien travaillé. Et ils se payent même le luxe de lâcher des joueurs qu'ils avaient draftés et qui étaient plutôt bons. Je pense à Puku, Vukojevski. En plus, il y a le vétéran Hayward qui peut apporter un peu en sortie de banc. Ouais, ils ont une bonne équipe. Franchement, je pense qu'ils vont finir premier ou deuxième. Je vois peut-être Denver finir très fort. Mais après, en playoff, je pense qu'il y a moyen qu'ils ne passent pas un tour. Hein. Ça dépend, ils tombent contre qui. Parce que, en fait, à la 8ème place, tu peux tomber contre un Lakers ou un Suns ou un Warriors qui peuvent. Voilà, c'est trop d'expérience, trop de vieux briscards qui savent comment appréhender ce genre de rendez-vous.
Non, mais c'est vrai que pour le coup, oui, Oklahoma. Alors après, de toute façon, j'ai même envie de dire limite si. Alors. C'est vrai que ce serait quand même plus ou moins une surprise. Alors après, ça dépendra en effet de l'opposant au premier tour. Mais ne serait-ce que d'avoir fait une régulière comme ça et d'avoir terminé aussi haut, pour un premier exercice de Chet Holmgren, notamment avec son intégration, tout le travail que ça demandait, bah, c'est une saison plus que réussie déjà. Donc, et c'est même très encourageant pour la suite. Avec, bon, de toute façon, on abordera le sujet, je pense, tout à l'heure. Mais il y aura le cas, en effet, chez Gilgeous Alexander, qui sera forcément à aborder.
C'est lui le driver. C'est lui le driver, parce que là, ils sont bons depuis deux ans et demi. Et en vrai, ça commence à partir du moment où Shai arrive.
Oui, bien sûr. Bah, depuis qu'il est arrivé de Los Angeles, il y a eu... On va dire la transition, si je ne dis pas de bêtises, avec l'année avec Chris Paul. Et ensuite, derrière, c'est monté en puissance au fur et à mesure. Mais bon, je pense que d'ici... Alors après, je vous laisserai bien sûr terminer, hein, Paul et Quentin. Mais je ne pense pas qu'Oklahoma terminera premier de la saison régulière. Je pense que Denver, là, ça y est, ils ont clairement enclenché la seconde. Hein. Ils sont sur un bilan de 9-1 sur les 10 derniers matchs. 3 victoires de rang. Bon, je pense que Denver va remettre un peu l'église au milieu du village, hein, comme on dit. Mais en tout cas, non, très, très impressionnant cette saison d'Oklahoma.
Non, mais en vrai, c'est vrai que moi, je regarde souvent NBA Extra. C'est vrai que c'est l'équipe, souvent, quand ils annoncent, c'est vrai que c'est un collectif qui est jeune, qui semble avoir la tête sur les épaules. Tout le monde connaît son rôle et c'est vrai que ça se voit, hein, sur les résultats. L'équipe est plutôt plaisante à voir jouer. On s'ennuie jamais avec OKC quand on voit les matchs. Donc c'est vrai que pour le coup, comme l'a dit Rafik, ça a été monté judicieusement avec le temps. Et ce qui est vraiment très rare en plus dans le sport américain, c'est qu'ils ont vraiment pris le temps de prendre les éléments dont ils avaient besoin pour constituer une équipe correcte. Tu vois. Alors il y a beaucoup d'équipes qui soldent un peu leur bénéfice en essayant de récupérer des gros poissons, monter des équipes un peu farfelues pour gagner assez rapidement. Bah eux, ils ont pris le pour partie de se dire ok, on va prendre notre temps et essayer de faire une bonne équipe dans la durée. Mais ça paye, hein.
Bah aller voir finir premier cette saison, en vrai, moi je pense qu'ils peuvent parce qu'ils ont toujours cette dynamique, quoi. Ils ont jamais lâché leur dynamique depuis le début de la saison. Donc les voir finir premier, je pense que ça peut jouer, je dirais pas largement, mais sans non plus trop de difficultés. Mm-hmm. Et aussi pour... parce que tout à l'heure, ça te demandait où est-ce qu'avait été drafté Janet Williams, c'était en 12. Je suis allé voir.
Ok.
Mais non, bah, OKC, ça reste une des meilleures équipes de la Ligue cette saison. Il n'y a pas grand-chose à dire sur leur jeu, quoi, en fait. Ils jouent leur jeu, ils le jouent bien, ça défend... Quasiment tout le monde défend. Mm-hmm. Quasiment tout le monde attaque bien, à part un certain surfeur.
Ouais, un certain, ouais, ouais.
Ouais,
voilà. On n'en dira pas plus.
Puis, ben, en vrai, ce qu'ils font avec, moi j'avais un peu peur avec le banc, tu vois, parce que c'est pas un banc comme ça où tu regardes les noms, c'est pas un banc qui fait envie.
Mm-hmm.
Et au final, même, bah, même leur seconde unit, au final, elle fait l'affaire. Genre, je pense à Isaiah Joe. Qui a des pourcentages, mais de fou furieux à 3 points. Je pense à...
C'est une gâchette, lui.
Bah, même le rookie Cason Wallace, qui défend super bien. Lui aussi, il est propre. Même s'il prend pas beaucoup de tirs, il reste propre dans ce qu'il fait. Et défensivement, j'aime beaucoup ce qu'il a pu montrer.
Non, c'est vrai qu'Oklahoma, ouais, ça reste... Bah, en fait, on sent que c'est une vraie équipe de bosseurs. T'as pas... Alors, en dehors de Shai Gilgeous-Alexander, qui bon, est plus ou moins considéré comme une star, voire future superstar, si ce n'est pas même, on va dire, plus ou moins le cas. Quand on regarde après l'effectif, en fait, c'est qu'un effectif de bosseurs. Hein. Il y a des mecs aussi comme Lugansdort. Maintenant, il y a Gordon Hayward aussi qui est arrivé dans l'effectif. On va avoir qui d'autre donc Isaiah Joe, il y a Keyonte Johnson aussi qui peut apporter quelques petits trucs par-ci par-là, il y a Kenrich Williams, il y a quand même, c'est quasiment que des bosseurs, hein. C'est que alors, ce serait peut-être les réduire, ce serait peut-être un peu réducteur de dire que des role players, mais en tout cas des gens qui connaissent leur mission, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Je repense aussi à Bismack Biyombo, hein, qui a quelques minutes, mais qui sait apporter, même si c'est que quasiment que du pick and roll, hein, qu'il fait. Hein. On va pas non plus dire qu'il est là pour révolutionner le jeu d'Oklahoma, mais ils connaissent leur boulot, et du coup, je pense que c'est pour ça que cette équipe tourne très très bien cette saison. C'est qu'il y a une vraie hiérarchie qui est mise en place et tout le monde se met au service de tout le monde. Donc en tout cas, avec curiosité de voir ce que donnera la suite pour Oklahoma. Dernière info qui est pour le coup plutôt, je dirais, réjouissante. En tout cas, le basketball s'en sort, je pense... de mieux en mieux, c'est notamment le retour potentiel de Lonzo Ball, hein, qu'on avait déjà enterré il y a quelques semaines. Maintenant, il se remet à courir, il se remet à sauter, il reprend une activité physique, donc bien sûr, hein, pour le moment sans contact, mais voilà, c'est déjà un premier retour annoncé, et bon, on verra bien ce que ça donne par la suite, mais on est bien d'accord, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le basket qu'il soit de retour.
Oui. Déjà, c'est déjà, on préfère tous voir Lonzo jouer au basket que son petit frère Tahiti Bob là. Non, mais franchement, c'est un mec. En fait, je pense qu'il a eu il a eu pas mal de pression à cause de son père qui est arrivé avec. Bon, on se rappelle, hein, quand Lonzo est arrivé, hein, il y a eu la pression médiatique à cause du père. La Melo Ball, il l'a moins eu parce qu'il est arrivé quelques années plus tard. On va dire que toute cette parodie était terminée.
Ouais.
Et ouais, Lonzo, c'est franchement un joueur avec un très bon cul basket, qui défend très bien, qui nous sort des putains de belles passes, qui a bien progressé au shoot à 3 points. C'est peut-être pas le joueur moderne comme on en voit très souvent, mais franchement, c'est sur demi-terrain, c'est propre. Moi je suis content, franchement, c'est une bonne nouvelle pour le basket, clairement. Oui.
Parce que c'est vrai qu'on l'avait enterré assez rapidement, enfin en courant de saison, on se disait potentiellement fin de carrière, etc. Donc c'est vrai que cette nouvelle, bon. ramène un peu de soleil aussi dans le paysage NBA. Paul, Quentin, vous, un peu vos avis là?
Moi, je suis toujours content que quelqu'un qui revient de blessure, pour être moi-même avoir été blessé pendant longtemps et avoir des problèmes de santé. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui revient puis qui retrouve des sensations, parce que tu sais, comme tu disais tout à l'heure, il peut arriver que quand il y a une blessure, ça s'arrête. Donc là, le fait qu'il puisse déjà recourir sans contact, avoir les sensations, c'est toujours bon. Et je pense que même mentalement, ça va lui faire du bien de refaire ce qu'il aime et de reprofiter un peu de la chose. Et je pense que tout le monde va y gagner. Comme l'a dit Rafik, s'il retrouve les sensations, s'il se sent bien et que la santé suit, le collectif dans lequel il va jouer, il va toujours apporter quelque chose. Donc, moi, je suis toujours content d'apprendre ce genre de nouvelles. C'est toujours intéressant, oui, bien sûr.
Quentin, toi, t'as un petit avis ?
Bah, je vais pas avoir un avis très différent. Bien sûr que ça fait plaisir de savoir qu'au moins il peut recourir, vu que il y a encore quelques mois, il pouvait même plus monter les escaliers. Donc, juste ça, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle pour lui, s'il peut se remettre à jouer à haut niveau. Puisque, bah voilà, on a vu sa progression là au fur et à mesure des années. Puis c'est aussi une super nouvelle, bah, potentiellement pour les Bulls, si peut rejouer au niveau NBA.
Ouais. Mais d'ailleurs, lui, ça aurait été un bon. Ça aurait été un excellent meneur de jeu pour les Spurs, lui. Hein.
Cher. Ouais, après, il coûte un peu cher. Hein.
Ouais, oui, c'est sûr qu'il coûte un peu cher, mais. Mais bon, en tout cas, oui, un joueur doté d'une très, très grande intelligence qui a su vraiment bosser aussi et travailler sur ses axes de progression. D'ailleurs, aussi un excellent défenseur sur l'homme. Ça, on l'oublie, on l'oublie très souvent. Hein. Le mec, il te prend. Le mec, tu lui dis de défendre 48 minutes tout terrain sur toi, il va être capable de le faire. Hein. Et il va te piquer le ballon à plusieurs reprises. Hein. Donc, en tout cas, oui, c'est une très bonne nouvelle pour le basketball dans sa globalité qu'un joueur comme Lonzo Ball puisse déjà reprendre une activité physique, en espérant bien sûr le revoir sur les parquets très prochainement. Bon, ben, je pense que ce sera, quoi qu'il en ait, pas avant la saison prochaine, mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Donc voilà pour les actualités en bref. Hein, donc. De cette semaine, et ce que je vous propose, donc, c'est de partir sur le débat de la semaine, et on va avoir, hein, comme d'habitude, hein, comme toutes les semaines désormais, donc, la petite chronique Made in Loris.
Après avoir mis en lumière le manque de formation aux États-Unis et s'être attaqué aux récentes défaites de Team USA sur la scène internationale avec des références plus que douteuses, Catch and Shoot se dirige désormais vers sa nouvelle cible. Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever, j'espère que vous allez bien et que l'émission est toujours diffusée sur les ondes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loris aka Catch and Shoot et chaque semaine ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur ou un coup de gueule. Cette semaine, la chronique sera sous le thème des 3 plus belles lettres ever et non, bande de petits cochons, ce ne sont pas BBW mais bel et bien MVP. La course au Most Valuable Player bat son plein et au moment où j'enregistre, rien n'est encore joué puisque ce sont not one, not two, not three, not four, mais 5 noms qui se tabassent depuis le début de la saison. Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum et l'homme dont je déteste prononcer le nom, les vrais savent pourquoi, Shai Gilgeous-Alexander. 5 noms pour un seul trophée, chacun avec des arguments à faire valoir, que ce soit les stats, le bilan, la régularité, la progression ou encore le fait d'être beau gosse. Je vous laisse le soin d'attribuer les différents arguments au joueur de votre choix, moi je pose juste ça là. D'ailleurs, sur ces 5 noms, 3 d'entre eux sont à plus de 30 points de moyenne. Non, ça apporte rien au débat, mais ça me rappelle la saison 2006, donc je suis bonheur. Il ne vous aura pas échappé que parmi ces joueurs, un seul d'entre eux est américain et 2 seulement sont issus du continent nord-américain. Ce qui me permet de faire la transition avec la dernière polémique en date de l'ami Gilbert Arenas. Au cours de son podcast, alors que l'agent zéro et ses invités, notamment Kenyon Martin, une bonne bande de prix Nobel, tiens, échangeaient sur le fait que la ligue était devenue soft. Gigi, ouais, je l'appelle comme ça maintenant, ce sagouin, a une sortie, comment dire, vous savez quoi ? Le mieux, c'est que je vous passe un extrait de sa dernière take que je vais traduire moi-même par mes soins et on en parle après. I know what they can do.
Alors je sais ce qu'ils peuvent faire, ces bureaucrates de la NBA, n'est-ce pas? C'est expulser tous les Européens chez eux, n'est-ce pas, oui? Ces vagabonds ne vont pas à l'université, donc ils ne savent pas défendre, comme Jeanne d'Arc à Poitiers, n'est-ce pas? Ils sont tout l'inverse de ce que je combats, car ils ne sont pas vifs, ni agiles, ni rapides, n'est-ce pas? Il y a 150 expatriés en NBA, alors donnez-moi désormais les top 10 des défenseurs de ces immigrés, n'est-ce pas? Il n'y a que Rudy et le Greg Fritz ou que sais-je là. Les autres sont là pour attaquer comme au temps des croisades, n'est-ce pas? Et c'est à cause de Monsieur Argent, là, Silver, hein, que les règles se sont adoucies pour leur donner des allocations et vivre et réussir un NBA, n'est-ce pas?
Toute ressemblance, même mal réalisée avec une personnalité connue, serait purement fortuite. Alors je contextualise, j'aimais beaucoup Arenas le joueur. J'ai d'ailleurs son maillot dans mon armoire, mais alors l'homme... Disons que je lui souhaite la gratte au cul et les ongles mous. Parce que le mec nous explique que si ça défend moins bien et que c'est devenu soft NBA, c'est à cause des Européens. Sauf Rudy et Giannis. En vrai, je suis sûr qu'il voulait dire que c'est à cause des Blancs, mais le peu de cerveau qui lui reste a dû sortir de sa léthargie à ce moment-là pour contrôler le dérapage. Il était même à deux doigts de nous sortir, mais je suis pas raciste, j'ai joué avec Darius Songaïla. Nadine Morano et Isabelle Balkany apprécieront. Parce qu'en vrai, on est d'accord que si JJ Redick avait lâché un, si les contrats sont faramineux en NBA, c'est parce que la majorité des joueurs sont afro-américains et issus de familles monoparentales chez Radamaz, ou un truc dans le genre, bah ça aurait fait un tollé sur le net, j'en suis sûr. Puis on est d'accord que Gilbert Arenas qui nous parle de défense, c'est comme Magic Johnson qui nous parle de fidélité. Personne n'est dupe, Gigi. Puis dire que la NBA a adapté les règles pour permettre aux Européens de performer, faut être sacrément de mauvaise foi. À croire qu'Arvidas, Detlef, Marcelounis, Dirk, Poe, Marc, Tipi, Drazen, Peyaz, Idrunas, Kukoc ou encore Turkoglu sont des touristes. Dois-je rappeler d'ailleurs que Jokic est tellement soft, qu'on n'a plus jamais eu de nouvelles de Markif Morris le jour où il y a enfoncé la colonne vertébrale. Que Booker est devenu un petit con depuis que Doncic l'a pissé dessus, ou encore que Kukoc a dû s'entraîner et supporter tous les jours de l'année King Jong-un. Ah merde, pardon, Michael Jordan. Et pour revenir au sujet principal, cette année, 4 joueurs parmi les 5 prétendants au MVP sont non-américains, donc... Et sur les 5 dernières années, les derniers MVP sont grecs, serbes et camerounais. Et pour le coup, il y a zéro scandale à chaque fois. Donc si la NBA a facilité les choses, j'imagine que c'est pas à géométrie variable et que ça devrait aussi favoriser tous les joueurs de la ligue. Le vrai problème, c'est plutôt le règlement tout court et le niveau très, très, très discutable des arbitres NBA. Supprimer les 3 secondes défensives et on va voir qui sont les vrais. Parce que dire qu'en Europe ça défend pas, faut vraiment être un ignare fini. Même Doncic avait dit au bout d'une saison que c'était plus facile à attaquer en NBA qu'en Europe. Et le mec sortait d'un MVP de Final Four, d'un MVP de l'Euroleague et d'une victoire en Eurobasket. Donc je pense qu'il sait de quoi il parle. D'autant plus qu'il en est où, attends, désormais, Doncic? Ah ouais, merde, il est dans la course à MVP, tiens. Donc Gigi, écoute, rentre au Pana ou aux partisans et de préférence sans armes, hein, parce que pas sûr que tu sois le seul à en disposer dans la salle. Et déjà, découvre ce que c'est une vraie ambiance. Parce que la NBA, c'est mignon, la NCAA, ils sont gentils avec leurs fanfares et leurs trompettes. Mais quand tu vois que Durant a frôlé l'AVC quand il est allé voir Olympiakos Monaco, je les imagine même pas 5 minutes s'ils foutent les pieds au vélodrome. Profitons surtout de la chance que nous avons d'avoir des joueurs d'un tel calibre, et ce, peu importe leur nationalité. Messieurs, je vous laisse désormais la parole pour débattre sur cette take absurde, sur les 5 noms que je vous ai proposés, et d'ouvrir le débat sur qui va remporter cette course MVP. Quant à moi, je vous laisse. Je dois rejoindre Bulma pour trouver les 7 Dragon Ball et ressusciter non pas MVP, mais bien le GOAT. Allez, salut et repose en paix, Toriyama-sensei.
Ah, il est fort, il est fort, il est fort. Il est trop fort. Je suis désolé, mais à chaque fois que j'écoute les épisodes, mais là, je suis dessus, mais là, il est trop fort. Je sais pas comment il fait, son inspiration, si l'air de Marseille, il y a quelque chose dans l'air de Marseille, mais en tout cas, je ne sais pas. Il est trop fort.
C'est trop. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre sa chaîne YouTube aussi, Catch and Shoot, au passage, hein, si vous voulez d'autres tirades de ce type. On va dire qu'il y a eu deux sujets en un dans son vocal, en tout cas dans son audio. On va pas revenir sur le sujet Gilbert Arenas. Je pense que il a plus ou moins parlé pour nous aussi en parallèle. Mais on va revenir, d'ailleurs, un très belle imitation de Jean-Marie Le Pen au passage.
N'est-ce pas?
N'est-ce pas? Donc, on va revenir donc sur le sujet hein, du débat de la semaine, qui est donc bien sûr hein, la course au MVP de la saison. Donc qui se joue hein, entre 5 noms hein, on va dire ça comme ça. Donc on va avoir Shai Gilgeous-Alexander, on va avoir Nikola Jokic une nouvelle fois, on va avoir Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. En tout cas c'est celui qui est avancé dans l'audio. Est-ce qu'il y en a déjà l'un d'entre vous qui souhaite commencer à discuter justement de ces 5 noms?
Bon, déjà, moi, je peux déjà dire une remarque, c'est que là, on en a 5, mais on va dire qu'il y en a 2 qui ne peuvent plus être dans la course au MVP à cause de trop de matchs manqués. C'est Joel Embiid
et Chris
Middleton. Donc,
on était sûr, je savais.
Ah, il a un corrigé.
Les gars, moi, je regarde les matchs de Milwaukee. Franchement, c'est le meilleur joueur. Meilleur joueur de la deuxième meilleure équipe à l'Est. Ça va. Je dis pas des bêtises.
En plus, meilleur joueur en ne jouant pas. C'est ça qui
est incroyable. Ah, bah oui, c'est là, incroyable. C'est là où on voit. C'est incroyable.
Sa technique de coupage de citron.
Il brille par son absence énorme.
Il le fait exprès. C'est pour bien montrer à quel point il est important. Et on le voit bien vu comment on joue. Bah ouais, franchement, c'était bon. Franchement, moi j'irais même un top 4, hein, Tatum, mais bon, il est même pas dans la discussion. Faut pas déconner. Et de toute façon, non, mais quand je dis faut pas déconner, c'est en mode c'est bien, t'es 5ème, c'est grave bien 5ème. Moi je suis prêt à être 5ème, c'est bien, mais c'est pas, mais voilà, il est pas dans la discussion pour moi. C'est un 5ème qui est loin, qui est déjà distancé.
Fais gaffe parce un 5ème au MVP, je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y en a qui ont eu une fois la place de 5ème au vote des MVP. Ces personnes-là, a posteriori, disaient que c'était des joueurs majeurs, c'était les franchise players de leur franchise et qui étaient au niveau MVP. Hein. Je tairai les noms, c'est la franchise de Quentin. Et il saura de qui je parle.
Oui. C'est le macroniste métis, c'est ça?
Est-ce que je mets une balle aux Sixers et à Joel Embiid maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu?
Bah, lui, au moins, a été MVP. Allez, merci.
Ouais, mais il a toujours pas fait de finale de conf.
Oui, mais je m'en fous, c'est pas grave. C'est pas grave, il est français.
Et oui, monsieur français.
Vas-y, Rafik, je te laisse enchaîner.
Ensuite, bon, je pense que... Bon, ça, je vais être un peu... En vrai, moi, je le concède pas, mais bon, je pense que beaucoup de gens l'ont concédé parce qu'il est jamais évoqué. Bah, Giannis n'est jamais évoqué dans la course au MVP. Bon, là, a fortiori, là, on est en train d'en parler, mais... Mais franchement, après, quand tu regardes les médias, etc., le nom de Giannis, il revient pas souvent, alors qu'il fait une très bonne saison. Il est à plus de 30 points, plus de 10 rebonds, même plus de 11 rebonds, quasiment 7 passes de moyenne, avec un très bon true shooting. Et pourtant, on n'en parle pas du tout. Hein. C'est pas comme si Milwaukee avait un bilan catastrophique.
Ouais, mais Rafik.
Sur le terrain, on est catastrophique.
Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Rafik, le problème, c'est que la façon dont il joue. Le bilan est là, mais la façon dont il joue, je pense, le dessert. Parce que c'est vrai, tu as raison, au niveau de ce qu'il fait sur le terrain, c'est un vrai chantier. Mais le problème, comme tu viens de le dire, c'est la façon dont jouent les Bucks ces derniers temps. C'est franchement. Des fois, c'est incompréhensible. Pourtant, ils ont du matériel, hein. Mais des fois, tu te demandes vraiment si c'est comme les mecs sur les chantiers, est-ce qu'ils savent utiliser les truelles ou mettre les briques et tout. Des fois, tu te dis, ils font les choses à l'envers. Et tu te dis, mais attendez, vous avez du bête de matériel avant en votre possession et vous faites n'importe quoi avec. Et c'est ça qui est, je pense, qui est pour moi le dessert. Parce que c'est vrai que sur le papier, quand tu regardes moi, je regarde les stats, là, 30,8 points, 11,3 rebonds, 6,4 assists, 1,1 contre. 1,3 assist, mais franchement, si tu parles pas de lui, tu parles de personne en vrai. Petit, tu vois ce que je veux dire. Mais le problème, c'est la façon dont il joue. Et des fois, c'est...
Mais quand la façon dont il joue, c'est un « il » à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel?
Non, tout le groupe, en fait, tout le groupe des Bucks, oui, en fait, parce que lui, il joue, lui, il est solide. Mais tous les autres combinés, c'est...
Aussi. Mais Dallas ne joue pas bien, et pourtant, dans Sitch... Et dans.
C'est vrai aussi.
C'est que on peut. Denver a fait une partie de saison où ça jouait pas très bien. Milwaukee, il y a des périodes. C'est à courant alternatif. Il y a plus de bas que de haut en termes de jeu. Mais au final, le bilan est là. Les stats sont là. Moi, je pense que je dis pas que c'est un scandale s'il n'y a pas le MVP. Même si pour moi, même s'il n'est pas dans le top 3, c'est pas un scandale. Par contre, ça m'étonne. En fait, en gros, il est banalisé.
Oui, c'est
sur banalisé. Alors que moi, je suis même pas un pro Giannis. Hein. Moi,
c'est comme Jokic.
Oui, bah non, Jokic pour moi il est pas banalisé. Hein. Jokic, non, mais il touche le ballon, c'est t'as mille
feet. Non, mais wow. ce que je sous-entends par ça, c'est que bah voilà, Jokic, les cases MVP, elles sont déjà cochées, surcochées. En fait, c'est même plus, c'est comme Giannis pour moi, c'est voilà, c'est exactement au même niveau. C'est que en fait, il y a même pas besoin de les mentionner parce qu'on sait que naturellement ils sont dans cette course en fait.
Oui, mais pourtant, là, tu me dis que pour moi, Jokic, il est, on en parle tout le temps, alors qu'il les a cochés, ces cases-là. Mais pourtant, son nom apparaît toujours. Et moi, je dis ça, mais moi, je suis pas, franchement, en plus, je suis même pas un pro Giannis. C'est Vladimir, je le sais très bien que moi, quand on parle de Bucks, je parle que de Chris Middleton, j'en ai rien à foutre de Giannis.
Oui, oui.
Et ouais, moi, je trouve ça bizarre
après,
qu'il soit jamais évoqué.
Après, je pense que surtout pour Jokic, je pense que surtout le fait que c'est presque injouable, parce que là, tu vois, il y a des phrases qui disent en fait c'est un vrai enfer de jouer contre lui. Franchement, tu vois, même sur certains matchs, tu vois, les gens ils sont désabusés. Donc, je pense que c'est ça un peu ce qui fait qu'on le mentionne souvent, comme tu disais tout à l'heure, Rafik, le wa et tout, c'est que les gens qui sont en face de lui, ils sont déjà fatigués même d'avoir commencé d'être contre Jokic, alors que en vrai, si tu défends bien, si tu fais bien le travail, tu peux, entre guillemets, le ralentir ou l'annuler. Parce qu'en fait, c'est collectif. Mais c'est vrai que c'est cette dimension de se dire « Ah putain, je vais encore me taper Jokic. Vas-y, c'est relou. » Je pense que c'est ça qui fait qu'il est plus mentionné que…
Je suis encore pas d'accord. Je pense que c'est aussi relou de se taper Giannis, Doncic. C'est archi relou tous les soirs. Je pense qu'un mec qui doit défendre… Il sait que ce soir, il va défendre sur Giannis. Je pense qu'il a la flemme d'aller jouer. Et quand je disais tout à l'heure, waouh, c'est pas dans le sens, c'est un peu, allez, c'est pas flirting harassment, j'irai pas jusque là. Jokic, il va faire une passe, Giannis il va faire la même passe, t'auras 300 000 tweets qui vont dire quelle passe de Jokic, et tu vas avoir 3 tweets, le mien et deux mecs à Milwaukee qui vont dire quelle passe de Giannis. Tu vois, c'est en fait c'est ça que je veux dire. Après, c'est peut-être aussi une question. Même, tu vois, une question d'exposition. En général, les matchs de Milwaukee sont plutôt que Denver. Donc, en général, en France, on devrait plus regarder les matchs de Milwaukee que Denver. Mais voilà. Bon, après, c'était juste, en vrai, c'est un petit débat dans le débat. Mais voilà. En tout cas, je vois pas où Giannis est éliminatoire par rapport à Doncic. Oui, ok, mais sinon, à titre perso, c'est Doncic que j'ai envie de voir MVP.
Juste avant de laisser la parole à Paul ou à Quentin, pour te répondre très rapidement justement sur ce dernier point, à mon avis, c'est qu'il y avait énormément d'attentes et de... Alors, moi, d'entrée, je savais que de toute façon, ça n'allait pas être au rendez-vous, mais je pense qu'on avait énormément de... C'était même de la surattente vis-à-vis du duo Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plus ou moins déçus. Bah oui, c'est normal, Damian Lillard, il débarque dans une franchise qui a été championne 2 ans avant, qui roule, en fait, enfin, qui a sa routine, etc. Donc, c'est à lui de s'adapter à cet environnement-là. Ça demande bien sûr de l'adaptation, ce qui est tout à fait normal. Sauf que les gens sont toujours à la quête de résultats à l'instant T, de résultats dans l'immédiat. Et je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça a fait déchanter. Et malgré le début de saison qui était, alors je vais pas dire compliqué, mais peut-être en demi-teinte de Milwaukee, maintenant, en fait, toutes les performances des Bucks et notamment de Giannis Antetokounmpo, en fait, passent sous les radars parce que, voilà, il y a cette énorme attente de début de saison qui en a fait déchanter peut-être plus d'un. Et tu sais très bien que l'audience NBA est une grosse audience de border, hein, on va pas se mentir. Du coup, bah voilà, ça ne respire plus les strass et paillettes, on va dire, et maintenant ça passe complètement sous les radars.
Peut-être. Vas-y, Quentin, je t'en prie.
Non, j'allais dire que ouais, c'est vrai que c'est quand même une grosse ambiance de bandeur. Et j'avoue que voir un TGV traverser le terrain en tout droit, j'avoue que ça fait bander personne.
Ah, il commence.
Oh là là. Oh là là.
Le catcheur Hulk Hogan.
qui Ultimate Warrior.
Ah merde. Non, mais après, en dehors de ça, bon, ouais, je sais pas après vous. Alors après, sans forcément rester sur le sujet de Giannis, si vous avez, vous, vos candidats MVP, Paul et Quentin.
Faut être objectif ou pas?
Depuis quand on est objectif, nous?
Non, parce que bah, si je laisse parler le cœur, je vais dire Luka Doncic. Individuellement, il est quand même incroyable. Ouais. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, je laisse le cœur parler. Individuellement, il est incroyable. Le mec, bah, il est meilleur marqueur et puis il est presque en triple-double à 35 points de moyenne. Voilà, juste cette phrase existe. Mais voilà, c'est le cœur qui parle. Les Mavs, je vais pas dire 8e parce que bah, toutes les équipes sont coude à coude entre 9 et 5 à l'ouest. Mais voilà, il y a un gap collectif avec Giannis, avec Jokic, avec Tatum et avec Shai. Il y a un gap collectif. Mm-hmm. Et si je devais faire objectivement, je pense que mon top 2, parce que j'arrive pas à trancher, ce serait Jokic ou Shai, objectivement. Mm. Surtout que, bah, pour en revenir à Shai, tu as aussi l'aspect défensif.
C'est pas faux. C'est vrai que ça peut pencher en sa faveur, hein, car en effet, Shai Gilgeous-Alexander n'est pas seulement un gros talent offensif. Et oui, pour couper court, hein, le sujet de Luka Doncic, hein, pour moi, il n'a absolument rien à faire dans la discussion. Tant que ton équipe n'est pas top 4 de ta conférence, je veux même pas en entendre parler.
Ouais, mais on vient de dire que c'est une ligue de bandeurs, donc forcément, si...
Mais je les emmerde.
C'est la jurisprudence Westbrook.
Mais de ouf.
C'est ça.
C'est insupportable.
Jokic, il a été MVP en étant 6e, il n'y a personne qui dit rien.
On aurait pu avoir une jurisprudence OMB s'il jouait 35 minutes par match.
Non, mais alors, tiens, pour te répondre, Quentin, en effet, quand Jokic a été aussi MVP en étant 6e, moi, j'étais pas du tout pour non plus. Hein. C'était exactement. Et je me rappelle, on avait même fait un live. C'était l'un de nos tout premiers lives sur Twitch de Team Duncast. On avait justement abordé la course au MVP, donc c'était en 2021. Mais moi, mais jamais, et je me rappelle très bien de l'avoir dit, jamais au grand jamais, il doit y avoir un MVP en étant 6e de sa conférence. Et sur ça, moi, je maintiens mon discours. Hein.
Tu parles de qui?
Jokic.
Ah.
Pour moi, justement, 2021, c'était ça se jouait encore avec Joel Embiid, hein, à l'époque. Hein.
C'est 2022 où ils sont 6e, je crois.
C'est 2022?
Ouais.
Ouais, je sais plus. Enfin bref, peu importe. En tout cas, sur le principe, oui, tant que t'es pas 4e de ta conf, pour moi, tu n'as rien à faire dans la conversation, en fait. Voilà. Donc. Pour toi, alors du coup, pour toi, donc Quentin, toi, ce serait plus soit Shai, soit Nikola Jokic. Pour toi, Rafik, ou toi, Paul, peu importe.
Ouais, moi, franchement, c'est vrai que si on parle basket, moi, je mettrais Jokic. Après, si on met le spectacle, je mettrais Doncic. Mais après, si franchement, si c'est du basket. Voilà, Jokic, comme tu as dit tout à l'heure, il remplit toutes les cases, tu vois. Donc, après, c'est vrai que Shai, c'est super intéressant au niveau de la défense, mais je pense que Shai, il n'a pas encore cette expérience par rapport à Jokic, qui est un vieux briscard, qui connaît un peu les ficelles du métier. Mais j'espère qu'un jour aussi, Shai aussi va devenir un peu comme Jokic, un mec qui a de la bouteille et qui pourra aussi prétendre à ce spot-là. Mais pour l'instant, j'avoue que Là, que ce que montre Denver ces derniers temps, et puis cette, comme le disait tout à l'heure Quentin, cette dimension collective, parce qu'il est bon tout seul, mais il bonifie aussi son collectif. Donc je pense qu'il y a ça aussi, quand on parle du MVP, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, c'est que individuellement il est fort, mais il bonifie aussi son équipe. Donc je pense que ouais, moi je mettrais Jokic en numéro 1.
Et tout à l'heure, Rafik en parlait très rapidement, mais non, pas du tout de Jason Tatum dans l'équation.
Non, même si je suis un gars de Boston, franchement, Tatum, il est fort, Mais comme l'a dit Rafik, il n'a pas encore cette dimension où il permet à Boston de passer des paliers. Tu vois, moi, je les suis et vous savez que je suis un très grand fan de Boston et de Massachusetts. Il y a des matchs qu'on a perdus. S'il avait ce bagage technique de roublard, d'ancien, on ne les aurait pas perdus, tu vois. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que pour moi, même si on le met, hein, même par rapport à ses stats, pour moi, il n'a pas encore le calibre. Il n'a pas encore le calibre d'être dans cette discussion-là. Après, forcément, on est aux États-Unis, il est américain, il en met plein la vue, ça fait bander les jeunes, ben forcément, on va le mettre dedans. Mais moi, en tant que basketteur, en tant que supporter des Celtics, de regarder les matchs, pour l'instant, il n'est pas dans la course.
Bah, pour faire un petit peu le focus hein, sur Jason Tatum, son plus gros défaut, façon de parler, ce serait même pas forcément collectif, mais est-ce que ce serait pas le fait qu'à côté, il y a un certain Jaylen Brown qui lui fait de l'ombre ?
Je sais même pas s'il lui fait de l'ombre, parce qu'en fait, tous les deux, ils arrivent à apporter quelque chose à Boston, mais je pense que Jason Tatum, il a un peu cette image de pas mec besogneux. Tu vois, à Boston, on a vraiment cette image-là, un peu comme Rafik au niveau des Bucks, c'est les gens qui travaillent. Et t'as le sentiment, moi j'ai le sentiment depuis quelques années, en fait, c'est que t'as l'impression qu'il est facile, qu'il n'est pas dans la dureté, dans les efforts. Donc c'est beau, hein, quand tu le vois jouer, tu vois, c'est fluide. Même là, je regarde quand les Celtics postent des trucs sur les réseaux, bah, c'est beau. Mais il n'y a pas ce côté un peu comme Damaz M, la guerre de tranchées. Tu vois, ça, il n'a pas encore.
Bah, ouais, bon, je vois ce que tu veux dire. En fait, je comprends parfaitement. En fait, ce que je sous-entends surtout avec cette question, c'est que dernièrement, notamment joueur de la semaine, ça a été, enfin, depuis là, ces dernières semaines, c'est surtout Jaylen Brown qui est beaucoup plus mis en avant du côté de Boston. Et justement, est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que justement, Jason Tatum ne se repose pas, façon de parler, un peu sur
peut-être
les...
aussi, peut-être inconsciemment, il sait qu'il a un collègue qui peut le backup. Il se donne pas à fond, peut-être aussi. J'avoue que
il y a aussi le salaire de Jaylen Brown.
Oui, en bien vrai, sûr. Le
salaire, il y a ça aussi, c'est vrai.
Non, mais ça joue dans le rapport. Jaylen Brown, il est à 300 millions.
300 millions, putain.
Il a un salaire de franchise player. Du coup, si on lui a donné ce salaire de 300 millions, c'est qu'on considère comme un franchise player. Et donc, en tout cas, qu'on le considère comme un co-franchise player. On ne donne pas 300 millions à quelqu'un qu'on considère comme le lieutenant.
Ouais.
Et donc, et je pense, et j'irais même vice versa. Bon, peut-être un peu moins, mais aussi Tatum fait entre guillemets, de l'ombre à Jaylen Brown.
Ah oui, ça peut aller dans les deux sens.
C'est un duo. Quand je dis ils sont de l'ombre, c'est pas dans le sens, ça veut dire qu'ils deviennent moins forts les deux ensemble, mais c'est dans le sens où ils partagent l'exposition, les louanges, ils partagent tout, et donc ça pèse moins quand ils font des choses, ça pèse moins que des joueurs qui en général reçoivent tous les louanges.
Ouais, je comprends. Ok. Écoutez, très bien. Je sais plus toi, Rafik, si tu avais donné ton MVP du coup.
Allez, je vais faire le supporteriste, c'est Giannis mon MVP.
Allez. Et justement, en dehors des noms, on va dire, qui sont vraiment en tête d'affiche, il n'y aurait pas potentiellement un petit underdog ou un petit outsider qui pourrait, alors peut-être pas aller jusqu'au titre d'MVP, mais pourquoi pas glisser sa tête dans le top 5 ?
Ah, j'en avais un, mais il n'est plus éligible au trophée.
Ah, c'était qui ?
J'ai dit, c'est Middleton.
Non, c'est un mec qui était déjà top 5, top 6, je ne sais plus, l'année dernière. Un monsieur des Cavs.
Mais
là, c'est bon, comme il n'a pas joué le dernier match, il n'est plus éligible.
Ouais, celui qui a mal au genou, là, en ce moment-là.
Ouais.
Le Donovan.
Ouais.
Moi, j'aurais aimé voir aussi plus Devin Booker cette saison.
Oui.
Mais je savais, franchement, ça m'étonne qu'il soit autant souvent blessé. Je pensais qu'il était quand même plus solide que ça en termes de santé, mais j'ai l'impression qu'il fait des petites rechutes tous les deux mois.
Bah, c'est vrai, c'est vrai que c'est Devin Booker s'est surveillé.
C'est depuis que Luka lui a pissé dessus, hein, ça a rouillé.
Il joue beaucoup aussi, Rafik. Le problème, c'est que leur équipe, là, l'équipe des Suns, en fait, leur banc, il sert un peu à rien. Parce que. Il faut appeler un chat un chat.
Il joue même pas. Le problème, c'est que même début de saison, il s'est blessé. Il me semble qu'il commence pas la saison.
Oui.
Il commence pas la saison.
Il se blesse au season opener face aux Lakers.
Et franchement. Moi, c'est pas un joueur que je kiffe. Hein. Quand je dis que je kiffe, c'est plus le personnage. Mais franchement, le joueur, moi, je trouve que sur les deux dernières saisons, il a. Depuis la défaite contre les Bucks en finale NBA, pour moi, il a énormément progressé. Mm-hmm. Que ce soit défensivement, que ce soit dans le playmaking, que ce soit dans l'agressivité, que ce soit dans l'intelligence de jeu, c'est. Pour moi, c'est franchement, si c'est un joueur qui a 100% de ses capacités, pour moi déjà c'est plus fort que Tatum. Il sera pas, hein, clairement, c'est pas un underdog, mais c'est plus dommage. Je crois qu'il n'est même plus éligible au MVP.
Non, il l'est plus. Écoutez, avant de clore, moi c'est vrai que j'avais mon petit underdog dont on ne parle pas, pourtant. Ils sont quand même quatrième de leur conférence, donc pour le coup, ça rentre dans mes critères. Hein. Jalen Brunson ?
Non.
C'est vrai.
Non.
Mais dans le classement, il est dixième. Hein. Là, dans le classement, dixième.
Au vu de son apport et de la stabilité qu'il apporte aux Knicks, ça me surprend quand même qu'il soit que dixième.
Franchement, c'est lui hein, qui remet les Knicks à l'endroit, en vrai.
Ah, bien sûr.
Ouais. Brice le dit souvent, en plus. Hein. nous entend. non, mais c'est vrai que sans Jalen, c'est un peu c'est un peu fade hein, comme au niveau des Knicks.
Ah ouais, hein, et puis on le voit parce que même avec l'absence de Julius Randle, bah avec un Jalen Brunson qui était aux manettes, bah ça arrivait quand même à tenir la barque. Et par contre, les résultats se sont dégringolés à partir du moment où il a été absent là quelques matchs avec son souci au genou là. Donc c'est genou ou cheville, je sais plus, mais en tout cas la jambe. C'est lui le vrai franchise player des Knicks, et on le voit depuis. Allez, je vais exagérer un petit peu, mais depuis une saison et demie quasiment, parce que on le voit dès la saison dernière. Que c'est lui le taulier. On va pas se mentir. C'est pas Julius Randle.
Totalement. C'est même pas scandale.
C'est le match en playoff contre les Cavs. C'est Brunson. Hein. Franchement, cette série-là. Mais c'est du sale qu'il a fait à Donovan Mitchell.
Quel masterclass.
Franchement, c'était waouh. Non, mais il a des matchs dans cette série. Du mi-distance, du drive. Ah, il a tout mis. Il a vraiment tout mis aux Cavs.
Non, c'est vrai que, en tout cas, je trouve justement un qui passe énormément sous les radars. Moi, je trouve que c'est lui, pour le coup. Bon, après, voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust. Hein. En tant que nouveau bandeur d'Enix, bonjour.
Nouveau bandeur d'Enix, il a dit. Je sens que quelqu'un cherche une augmentation.
Je n'étais pas au courant de ça.
Ah, j'ai dit non.
La RH.
Ça prépare la LeBron.
Je milite pour LeBron et Bronny Onyx. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est vrai que la relance des Knicks, j'aime beaucoup ce que ça fait. Donc, et puis Jalen Brunson, c'est toujours un joueur que j'ai énormément aimé. Donc ça va dans cette logique-là.
Bon, mais en vrai, je peux comprendre qu'on puisse un peu aimer les Knicks maintenant. Franchement, ils ont quand même un effectif sympa. Ouais. Et le backcourt DiVincenzo Brunson, il fait plaisir en vrai.
Il est sympa. Hein.
Ouais, il est sympa.
Ah, c'est vrai.
Moi aussi, j'aime bien les Knicks maintenant.
Avant de passer au prochain à la prochaine section, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs?
Il y a un mec des Suns qu'on n'a peut-être pas mentionné, plus qu'un Devin Booker.
Le pote de Maps.
Un mec qui se coiffe pas les cheveux, là, c'est ça?
Ouais, bah, parce qu'il peut pas, surtout.
Mais est-ce qu'il est encore éligible?
Bah oui, oui, il a joué plus
ouais,
de matchs que
hein. Ouais, ouais, lui, il est.
Bah, franchement, il en vrai... En vrai, ouais. En vrai, Eddie, c'est clairement un underdog, clairement.
Dans ce cas, si on sort du critère que j'avais d'être forcément quatrième de sa conf, bah en effet, si tu mets un Luka Doncic dans la course, bah Kevin Durant, il l'est tout autant.
Ouais, oui, c'est... oui, non, mais il est trop fort, Eddie. Rien à dire.
Ouais, mais on va éviter de trop en parler parce que sinon, il y a Mapenda, il va plus se sentir après.
Déjà, est-ce que va venir déjà?
Ah, ça, après, il sait très bien que la porte est ouverte. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ouais, le cas Kevin Durant, on n'en parle pas non plus, mais il fait une saison, en termes de propreté, je pense qu'on ne peut pas mieux faire, en fait.
Il est en 29-7-6, 53% au shoot, 43% à 3 points. En dessous des 90% lancés francs, mais...
Ouais. Mais bon.
Oh non, c'est trop. C'est,
ah non, c'est
trop.
Propre, franchement... il est easy.
Mm-mm.
Franchement.
Non. Bah, c'est Kelly, quoi, en fait.
Ouais, ouais, bien sûr. non, c'est sûr. Bah, écoutez, n'hésitez pas, hein, cher auditeur, chère auditrice, comme dirait notre Damas national. N'hésitez pas à nous faire part aussi, hein, un peu de vos avis, hein, de vos candidats MVP que vous présentez, avec bien sûr aussi vos justifications, parce que lâcher seulement des Lucas MVP parce qu'il a fait un triple-double à plus de 30 points alors que son équipe est 8e. Salut Lucas. Voilà.
Oh, hein. Comment il dit.
Des balles perdues.
Mais après, il va se branler sur Joel Embiid qui met 70 points contre les Spurs. C'est bon. Faut arrêter.
Ça lance des pots de banane comme dans Mario Kart, comme ça. Oup, là.
T'as dormi avec Samuel, Vlad?
T'as de la chance, Quentin, qu'on ne soit pas en live. Je peux pas te ban. Mais en tout cas, bon, Joël, le français, il sera toujours le MVP de mon cœur. Voilà. Donc bon, bah voilà pour ce débat, en tout cas débat qui aura bien fait parler. Messieurs, starting five, on commence poste par poste, on commence par meneur.
Ok.
On a qui?
Bah Luka.
Voilà, merci. Luka, ouais. De toute façon, comme toutes les semaines, hein, il sera joueur du mois, etc. Hein, donc ça change pas. Comme dirait Samuel, arrière.
Alors je sais pas si on peut considérer comme un arrière.
On peut décaler, hein.
Pour moi c'est un 3. J'ai pensé à Trey Murphy. Non, c'est plus non, 2 c'est non.
Tu m'as fait peur, la Rafik, putain, j'étais. Est-ce bien Rafik?
De quoi?
Trey Murphy.
Parce qu'il y a New Orleans qui est sur 4 victoires sur sa semaine.
Il fait
sur les 4 matchs, il est à 25 points, 6 rebonds, à 56% au shoot, 52% à 3 points.
Bah, tu veux qu'on le mette?
Et tout ça en 28 minutes. C'est quand même honorable, dans le sens où il y a 4 victoires, 0, et le mec, il est ultra propre en 28 minutes.
Et bah, tu sais quoi?
Et il est jamais titulaire. Ouais.
Voilà, bah, tu sais quoi? Vu que ce sera peut-être la seule fois qu'il le sera, bah, on peut le mettre.
Vas-y.
Allez, moi, ça me va amplement. Les justifications sont plus que recevables. Ailier shooter, on a qui? DeMar DeRozan?
KD. Ouais.
Ah,
KD en 4, non?
KD, peut-être en 4. Ça dépend, il y a qui en 4, ça dépend.
Ouais.
Bon,
ouais, il y a Balotage. Ouais.
Allez, Balotage entre DeMar DeRozan et KD. Ok.
Ah, parce que KD, c'est un ouf, ce qui est
ce
qu'il a fait.
Dans ce cas, on aurait qui en 5? Jokic, hein.
Ouais, Jokic.
Jokic, ouais.
Ah, Victor, ça gagne pas, ça fait chier.
Bah, surtout qu'il a pas joué deux derniers matchs.
Ouais.
Sengun, quand même, c'est 3 victoires, une défaite. Hein. C'est dans les matchs qu'il se blesse, c'est bien ça.
Ouais.
Mais sur les 4 derniers matchs, 3 victoires, une défaite, avec 25 points, 12,5 rebonds, 6,3 passes. C'est très mignon.
Bah ça se, c'est vous qui voyez pour le coup, hein. Ça se joue alors ouais au poste, ouais bah après oui ça, on peut bah sinon parce qu'il y a aussi Jokic, hein. Jokic il fait aussi une semaine de port. Hein.
Ouais, oui. Après
c'est vrai.
Ouais.
Mais on peut laisser plutôt... la chance aux beginners, on peut laisser la chance aux nouveaux. Jokic ouais. prendra peut-être d'autres trucs, mais laissons la chance aux ceux qui arrivent. C'est bien aussi de
Jokic. Bah, perso, là. Perso oui. je préfère crever que de donner mon vote à un joueur des Rockets.
Oh. Même s'il joue bien au basket.
Ouais.
Oh. Aïe, 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 aïe.
Après, y a...
non, mais on peut aïe, mettre... Tu sais, on peut mettre le Turc si vous voulez, allez.
Ouais, franchement.
C'est la seule fois qu'il le sera de la saison.
Ouais, bon, bah, dans ce cas, ce que je vous propose, alors, on met donc Luka en 1, Trey Murphy en 2, Demar DeRozan en 3, Kevin Durant en 4, et Alperen Şengün en 5, et on met en 6e joueur de luxe Nikola Jokic.
Pardon. Moi, j'avais une mention ouais. honorable, mais c'est plus à cause d'un match. Mm-hmm. C'est D'Angelo Russell.
Ah, ouh, ah, c'est vrai qu'on. Oh, attends.
Parce c'est que vrai que. Il fait, bon, sur les derniers. Sur la allez. Semaine, je pense qu'il a 23 points.
Les derniers quarts, là. Points,
4, ouais. 4. Ah ouais, non, mais le match qu'il fait contre Milwaukee, c'est. C'est un scandale.
Bah, t'as l'impression qu'il est encore. Il est encore à la trade deadline, quoi.
Ouais, non, mais en même temps, après, quand LeBron n'est pas sur le terrain, ça aide.
Eh, vas-y, toi.
Oh, 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 je savais qu'il allait arriver là, doucement, comme ça, comme... derrière Alifago.
Ce que je vous propose, c'est on décale KD en 5, DeRozan en 4, Trey Murphy en 3, et on met Dylan voilà, en 2. 5.
Oh putain, KD en 5. Dégage, oh, le small ball.
Et comme ça, on dégage un joueur des Rockets.
Oh putain. Oh, il est chiant.
Bon, allez, vas-y, ouais, j'avoue, parce qu'en plus, il est blessé, Şengün, on va dire qu'il peut pas jouer.
Allez, très bien. Russell en. Bah, du coup, on va dire Russell en 2. Hein.
Ouais, vas-y, lui passe en 2.
Donc, Luka Doncic, Russell, Trey Murphy, Demar DeRozan et KD. Ok.
Moi, j'aime bien, ça fait une line-up très 2017-2018.
Oh, de ouf. Ouais, de ouf. Et du coup, s'il y a des gens sur qui il faut taper, des coupeurs de citron, on aurait qui? Alors, que ce soit équipe, que ce soit joueur, peu importe. Hein.
Oh là là.
C'est...
Moi, j'en ai un direct, si vous voulez.
Bam Adebayo.
Ah, je pensais pas à lui, mais...
Il fait Bam Adebayo, c'est compliqué les derniers matchs. Hein.
Ouais, c'est pas faux.
Que ce soit Miami et Bam Adebayo. Hein.
J'ai même envie de te dire le hit. Hein.
Ouais, le hit. Mais en vrai, c'est depuis qu'il est revenu, Terry Rozier.
Oh non, parce qu'ils ont quand même gagné. Ils ont quand même gagné avant.
Il y a pas, ils n'ont pas recommencé à gagner quand il est absent et que l'autre acteur là, il s'est retrouvé titulaire.
Ah, je sais pas. Bah, si tu veux, on peut mettre. On peut mettre Bam Adebayo, peu importe.
Après, on verra. C'est une suggestion.
Moi, celui en coupeur de citron, hein, pour moi, bah, c'est le grand chef, hein, c'est Adam Silver. Hein. Foutre 100 000 dollars d'amende juste parce qu'il y a Rudy Gobert qui dit que Scott Foster a les flippettes de prendre les décisions qui fâchent, alors qu'à côté, tu as Draymond Green qui prend que 25 000 dollars d'amende, alors que le mec, il a étranglé Rudy Gobert. Donc le deux poids de mesure, il me gêne un peu, quoi.
Malheureusement, Rudy Gobert, il n'est pas américain.
Ouais, voilà. Ouais.
J'ai jamais vu.
c'est la problématique. Ouais, c'est vrai. C'est que.
J'ai jamais autant vu Vlad défendre Rudy Gobert que cette semaine.
Ah putain. Et j'en ai même parlé en bien la semaine dernière déjà. Hein, c'est pour te dire.
Putain, incroyable.
Ouais, c'est
après, moi, j'ai pensé à un joueur des Sixers, Tobias Harris. Pas ouf récemment. Surtout,
ouais.
Bah, c'est 14 sur les 4 derniers matchs. Ouais. Hein, c'est déjà 3 défaites. C'est 14 points, 14,5 points. Bon, 9,3 rebonds, c'est bien 3 passes, mais à 41% au shoot et 12,5% à 3 points.
Mm, mm, mm,
Dans ce cas-là, tu peux mettre Damon Green ou tu peux mettre le pote de Vlad, de Klay Thompson aussi. Hein.
Ah, là tu parles. Ouais.
Mais est-ce qu'ils ont perdu autant de fois dans la semaine?
Non.
Non. Non, c'est vrai. Non, donc non. Non, non.
Bon, allez. Ah, oh, putain, ça me fait chier. Putain, Tobias Harris, je l'aime tellement. Putain, ça me fait chier. Mais il fait chier, putain. Il est payé grassement. Il est pas capable de mettre 20 pions, quoi, putain. Ouais, bah, allez.
Mais une équipe pour vous, si vous voulez.
Vas-y.
Bah, les Raptors.
Les Raptors.
Ah, ça. Ah, non, mais c'est trop.
Ça oh, dégringole, alors. Hein.
Alors c'est que, terrible. D'après les mots d'un certain Darko, je cite, nous visons les playoffs.
Ah là, compliqué.
Ah
hein.
Ouais.
Non.
23 wins.
Non. Très compliqué, hein, parce que maintenant, tu te retrouves enfin, par rapport à Atlanta, tu te retrouves à 5 matchs et demi, enfin 5 victoires et demi d'écart. C'est mission impossible hein, pour avoir le 10e spot. Hein.
On va aller peut-être d'accord. Des playoffs de la loterie pick.
Ouais. Alors, on va dire ça, ouais. Ouais. Non, bah on a. Ouais. Les Raptors, est-ce que vous en avez un dernier, messieurs? Si vous en avez pas d'autres, hein, on peut se contenter de ça. Hein.
Attends, je vends les moyennes de Jabari Smith sur la semaine dernière.
Bah attends, moi je vais aller regarder celle de Klay Thompson.
Oh, j'irai la tenue de Russell Westbrook au match Milwaukee.
Ah, contre Milwaukee en rose, là, Milwaukee. En mode Ronaldo.
Ouais, ouais. Ouais.
Merde, il a 40% propre hein, sur la semaine. Chier.
Ah, compliqué.
Bah ouais, tu viens pas comme ça habillé.
Bon allez, go pour la tenue de Russell Westbrook, allez hop là.
Oh c'est méchant. Il a fait quoi? Il était juste là, tout content d'être là.
Allez, tenue de Russell Westbrook, très bien. Eh bah écoutez, parfait. On a notre starting five et nos coupeurs de citron. Bon bah très bien. Bah dernière rubrique. Donc je vais vous faire rapidement le point. Donc la dernière séance. Hein, donc les affiches de la semaine. Alors là c'est très simple. J'ai pris un match. J'ai pris une grosse affiche par jour jusqu'à donc mardi prochain. Donc ça va commencer donc dès mercredi soir. On a déjà un remake des finales hein, à minuit et demi. Denver qui se déplace sur le parquet de Miami. Donc voilà, remake de la finale 2023. Je pense qu'il va être intéressante. Alors est-ce que ça va être le petit coup d'arrêt pour Denver ou est-ce que ça va être encore plus Miami qui va s'enfoncer? Ça reste à voir, mais en tout cas, affiche qui peut être très intéressante mercredi soir. Jeudi, tiens, c'est pour toi, Polo. On a à minuit et demi Phoenix qui se déplace sur le parquet de Boston.
Ouais, ça aussi, ça va être un gros test. Très, très gros test.
En effet, ça va être. Ça peut vraiment être pas mal et ça peut permettre à Phoenix bah, de continuer sur leur bonne lancée aussi. Hein.
Ouais, si on n'est pas sérieux, je pense que oui, on peut, ça peut être mauvais.
Non, en effet. Ensuite, vendredi, on a une belle affiche. Là, si on veut un peu de spectacle, je pense qu'on aura, on en aura pour le prix. À 1h du matin, on a les Clippers qui se déplacent sur le parquet des Pelicans. Alors, est-ce qu'on aura des Clippers au complet? Ça reste à voir.
Ouais,
c'est toujours la question.
C'est surtout ça.
Ouais, enfin, au complet, bien sûr. Hein, Russell Westbrook ne sera pas là, mais quid de Kawhi Leonard et de Paul George. Mais en tout cas, affiche qui peut être intéressante, qui permettrait potentiellement à New Orleans, hein, s'il l'emporte, de revenir à moins de deux matchs, deux ou trois matchs, je ne sais plus, des Clippers. Samedi, c'est l'affiche de l'entertainment total. Golden State qui se déplace sur le parquet des Lakers à 1h30. Allez,
Samuel va sortir les pétards.
comment je vais m'assurer d'être dans un sommeil profond à ce moment-là?
Ah oui,
Adam Silver qui se frotte les mains au champagne.
De ouf. Bah, samedi, voilà, c'est la fête. Donc voilà, on a une affiche 5 étoiles en termes d'entertainment. Dimanche, alors là, on va être à heure européenne. Grosse affiche à 18h. Phoenix
Milwaukee.
Ouais, Phoenix Milwaukee.
Ouais, ça va être cool. Hein. Normalement, Chris Middleton va jouer, donc ça, c'est un match à ne pas rater.
Voilà. Donc prenez rendez-vous donc dimanche à 18h si vous voulez voir un joueur bon au basketball jouer face à un mec qui ne se peigne pas. Lundi, Bon, lundi, c'est ma petite Madeleine de Proust, on va dire, parce qu'après lundi, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose en termes d'affiches. Il y a Miami qui se déplace sur le parquet de Philadelphie. Bon, voilà, c'est un petit match, histoire de, ouais, on va ronfler fort. Je suis d'accord.
Match Guronzan.
Match Guronzan.
Si t'as du mal à t'endormir de la nuit de lundi à mardi, tu regardes.
Ça. Voilà. Et je parie sur un match à moins de 90 points pour les deux équipes.
Mais Nare Sam.
Et mardi, donc, pour terminer donc, cette semaine, pareil, on a une nouvelle belle affiche à 2h du matin. Denver qui se déplace sur le parquet de Minnesota.
Ouh. Wow, stylé.
Ouais.
Ou un petit, remake de la série d'année dernière.
Mm-hmm, tout à fait. Série qui peut, enfin en tout cas match qui peut être très intéressant. Donc voilà pour cette dernière séance, messieurs, avant de rendre l'antenne, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou un mot de la fin?
Oh.
Bah, juste pour annoncer que c'est le retour de Chris Middleton cette nuit contre Sacramento.
Contre Sabonis et consorts.
Ouais.
Donc du coup cette nuit à heure d'enregistrement, enfin jour d'enregistrement, donc lundi soir, mardi soir.
Exact. Oui.
Très bien, très bien. Quentin?
Bah pareil, à jour d'enregistrement, donc le mardi 12 mars 2024, je vous annonce que les Spurs vont une nouvelle fois faire des Rockets leur chienne.
C'est
facile. Moi, j'espère, en tout cas.
C'est facile de dire ça avec l'absence de Shengun, hein.
Ah, c'est pas mon problème.
Et toi, Polo?
Oh, j'espère que les Celtics vont continuer à gagner. Hein. Moi, je dors tranquille, mais c'est mieux de se lever le matin avec la victoire. Toujours.
C'est sûr. Eh bien, écoutez, messieurs, merci bien. Pour ce nouvel épisode, hein, bien sûr, vous pouvez retrouver le podcast Forever hein, sur toutes les plateformes de streaming. Vous aurez même les meilleurs moments sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok. Vous pouvez nous retrouver partout. Et puis surtout, bah, n'oubliez pas que comme d'habitude, hein, la vie est une fête et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!